Vous écoutez
RMC.
RMC.
Comme j'ai dit, je suis arrivé en équipe de France avec la pointe des pieds.
Joulin, il n'est pas manchot avec les pieds. Hein.
Ils ont voulu vraiment s'assassiner, ils ont tiré vraiment une épingle dans le pied tout seul.
Je jure sur pied pour Boateng.
La première intelligence, c'est l'intelligence des pieds.
C'est un bon joueur d'équipe avec une vraie mentalité. Les pieds, ils sont à lui.
RMC, l'afterfoot.
Christophe Plenet.
Accompagné par Florent Gautreau, David Glusman, vous êtes sur RMC, vous écoutez l'After en direct également sur After Foot TV et en direct sur la chaîne YouTube de l'After. N'hésitez pas à composer le 3216 pour nous appeler et nous faire partager vos avis. Le numéro WhatsApp de l'After également pour vos messages est ouvert au 06 12 424 424. On va parler à présent du Paris Saint-Germain, le champion de France en titre et double champion d'Europe, sera après Lyon le premier club français à reprendre la compétition de manière officielle. Ce sera dans une semaine en Autriche, à Salzbourg, le 12 août précisément, tout pile dans une semaine pour la Super Coupe d'Europe face à Aston Villa. Il y aura 4 jours plus tard le Trophée des Champions face au Racing Club de Lens. Beaucoup de noms sont sortis à la rubrique Mercato, dans le sens des arrivées, mais également des départs. Pourtant, personne n'est officiellement parti et personne n'a officiellement signé. Est-ce que vous comprenez que le Paris Saint-Germain n'ait pas encore été acté sur le marché des transferts de manière officielle?
Moi, je pense qu'ils l'ont, en fait, ils l'ont été, et peut-être presque plus. Alors évidemment, t'as rien d'officiel à 400%, mais je reprends l'été passé, où moi, je me plaignais justement, j'ai eu tort sur le résultat, hein, avec le back-to-back, mais je pensais que l'absence de recrutement, on va dire, notamment sur les joueurs de rotation, allait être pénalisant pour le Paris Saint-Germain, que le problème du gardien allait être un vrai souci, et finalement Safonov a assuré, même si je reste pas convaincu à 100%, mais enfin il a assuré, et finalement ils ont réussi à le faire avec un effectif qui n'avait pas été fortement modifié. Je trouve que cette année, alors même si c'est pas encore tout le temps signé et définitivement fait, il y a une vraie modification, toujours sur les joueurs de rotation. Ramos qui part, Kangingli qui part, c'est une petite page qui se tourne dans l'histoire du banc et de la rotation du Paris Saint-Germain. Et l'histoire du gardien, pour revenir là-dessus, sur Suzuki là, qui pourrait arriver, même si dans la gestion des gardiens, t'as un peu de mal à voir ce qui se passe au Paris Saint-Germain.
Si signe et que Chevalier part pas, ça va être chaud quand même.
C'est très très chaud.
Ils vont le prêter Suzuki.
Ouais, c'est très très chaud. Mais effectivement, en tout cas, je pense que au moins on est sûr. Enfin, moi, en ce qui me concerne, en gros, on est sur les recrutements sur des postes pour lesquels je pensais qu'il fallait recruter l'an dernier. C'est-à-dire que moi, en gros, je pense qu'effectivement, travailler sur le poste de gardien de but, c'était nécessaire et ça l'est devenu encore plus, parce que le fait que Chevalier soit pas à la hauteur, ça règle pas le problème, parce que pour moi, Safonov n'est pas un top gardien quand même. Et dans la rotation, il y a clairement des choses à faire évoluer. Le départ possible de Barcola, ça peut aussi jouer là-dessus. Donc je trouve qu'il y a plus, quelque part, il y aura plus à la fin de modifications et de nouveautés quelque part apportées dans ce mercato-là qu'on en a eu l'an dernier. Alors maintenant, est-ce que ça aura l'effet escompté? Je ne sais pas. Je pense que de toute façon, il faut renouveler d'une manière ou d'une autre un effectif. Il faut que ça bouge un minimum. Mais moi, écoute-toi, quand j'entends Akliouche et quand j'entends même Suzuki, tu vois, sur le principe, sur le profil, je trouve qu'au moins là, on a des profils intéressants. Et après, pour ce qui est du départ de Ramos, j'entends parler de Ferran Torres, par exemple, puisqu'on en a parlé. Moi, j'étais en Espagne là, donc en vacances. C'est vrai que c'était un des sujets, un des dossiers chauds.
Traître.
Tu leur donnes
argent.
Alors je pars toujours dans le pays qui devient champion du monde.
Donc ça va bien.
Bon, c'est plus simple quand c'est l'Espagne, parce que
l'Allemagne c'est un peu plus dur.
L'Allemagne l'était, ouais. Ça. Moi c'est beau quand même.
J'adore. Moi, je travaille pour le Mancalement depuis 15 ans.
Ouais, il y a des coins très sympas. Mais effectivement c'est plus simple quand c'est en Espagne. Et non mais c'était assez marrant parce qu'il y a plein de dossiers. Il y avait des dossiers très très chauds sur Rodri et autres, mais sur Ferran Torres par exemple, je trouve que l'idée de renouveler les joueurs de rotation, c'est important. Je trouve que, alors personnellement, que c'est mieux sur Kangingli par exemple que sur Ramos, parce que je suis pas certain que tu trouveras l'équivalent quelque part de aussi efficace et aussi sympa.
Je cherche moi pour Ramos. Hein.
Ouais, que Ramos. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, non. D'abord, ça m'inquiète pas qu'ils finalisent pas le Paris Saint-Germain, parce que ce que j'aime bien dans leur politique récente, c'est ce qui s'est passé avec Diomandé, par exemple. Et ce qui s'était passé il y a quelque temps avec Cherki, c'est-à-dire que s'il a un entourage
officiel hein, du Mandeo Real.
Du Mandeo Real officiel. Si un entourage, à un moment ou à un autre, prend des chemins de traverse, le PSG n'a pas à se mettre tu vois, à genoux pour attendre un joueur. Le PSG passe à autre chose, à un autre dossier, et tu changes d'objectif. Donc ça, sur ce type de dossier, on avait l'habitude. Mais moi, je pense que par exemple sur Diomandé, c'est une bonne chose qu'il ne vienne pas, même si c'est un très bon joueur. Parce qu'effectivement, je pense que le Paris Saint-Germain a les moyens de recruter, il n'a pas à être à la merci des entourages des joueurs. Et deux, effectivement, il faut changer des choses dans la rotation. Il faut que, je pense que c'est là quand même la clé de la réussite et de la possibilité pour eux éventuellement de faire l'exploit qui serait d'aller chercher une troisième Ligue des Champions. Il faut travailler effectivement sur cet effectif.
J'adore ce qu'ils font, mais je les attends en tournant. C'est-à-dire que j'aime toutes leurs pistes. Je trouve que c'est des améliorations qualitatives par rapport à ce qu'ils avaient. Si tu fais Ferran Torres par rapport à Gonzalo Ramos, c'est beaucoup plus quelque c'est chose plus. Qui correspond à Lucien Riquet. C'est plus polyvalent. Akliouche par rapport à Konginli, je trouve que c'est une plus-value. Prêter Suzuki, bloquer un talent comme Suzuki et le reprêter le temps de clarifier la situation des gardiens, je trouve ça très intelligent. Après, pourquoi je dis que je les attends au tournant, c'est que j'ai peur que dans un futur plus ou moins proche, ils soient un peu prisonniers de leurs effets d'annonce. Premier effet d'annonce l'année dernière, où on avait prétexté le salary cap, tu sais, l'espèce d'échelle des salaires, pour justifier le départ de Donnarumma. Prolongation d'Embélé qui est question qui est sur la table depuis plusieurs mois. D'Embélé qui est déjà le plus gros salaire parisien. D'Embélé qui a certainement des offres du golf démesurées, comme toute offre du golf. J'attends de voir à quel point ce salary cap ne va pas être exposé et donc quelles répercussions ça peut avoir dans le vestiaire et justement les prendre au mot en disant ben regardez, vous vous souvenez en fait le salary cap que vous aviez utilisé pour justifier le départ de Donnarumma, et ben tenez voilà, Diomandé, je vais répondre à Flo, je comprends complètement par rapport à l'entourage. Par contre, le communiqué pour avancer que tu ne participeras pas à la folie spéculative, d'une, je trouve qu'il est un peu gonflé et un peu fort de café. Et de deux, je suis pas certain que stratégiquement, ce soit très malin ni très intelligent. Dans la mesure où maintenant, t'as une course à la dépense qui est tirée vers le haut par des clubs de première ligue qui ont des droits télé, notamment internationaux, en forte croissance. Et que si tu veux vraiment faire tes cibles prioritaires, il va falloir aller régulièrement taper des montants 100, 120, 130, 140. Et que si vraiment Diomandé, le prix du marché, parce qu'il y a plusieurs clubs quoi, en chérie, à plus de 100 millions d'euros, était au-dessus de 100 millions d'euros, si tu le veux vraiment parce que c'est ça si prioritaire, tu devais y aller. Si la raison, c'est l'entourage, c'est un aspect juridique nébuleux, là, je comprends complètement. Mais attention à ne pas s'attacher un boulet au pied en disant le Paris Saint-Germain, d'une, ça ne participera pas à l'inflation des salaires, et de deux, à l'inflation des dépenses. Parce que faut pas insulter l'avenir, surtout quand on est un top club qui doit se maintenir dans le quota européen.
Un petit mot sur les gardiens. Tu parlais de Zion Suzuki. Pour toi, s'ils le font, ils le prêtent dans la foulée.
Ah, ils iront pas avec trois gardiens. Ils iront pas.
Ils en prêteront un.
Ils en prêteront un.
Mais pourquoi l'acheter alors?
Ça peut être.
Pour le jeu? Ouais,
pour après, pour le bloquer? Ouais. À mon avis, par rapport au recrutement récent, moi, j'aime beaucoup Lucas Chevalier. Je pense que.
Pourquoi ne pas le prêter lui?
Ouais, c'est une possibilité.
Même si lui voudrait rester.
Lui, il a une discussion avec Luis Enrique. A priori, il lui a demandé de rester. En gros, ça voulait dire, je peux regagner ma place, ce qui est tout à son honneur, ce qui est à mon avis tout à fait possible. Il y a pas de problème de niveau technique. Bon, ils ont pris un autre gardien. Déjà, ils ont pris Longoni pour faire la rotation.
19 ans.
En fait, ils ont.
Bah, ils avaient pris Marine, où on te disait que c'était un des plus gros espoirs européens. Ouais. Donc,
non, mais après, tu sais, moi, je suis très étonné parce que sur cette histoire de gardien, quand je vois Unai Simon, la Coupe du Monde qui fait. Et je me dis, mais pourquoi Luis Enrique, il s'est pas précipité sur Unai Simón depuis plusieurs
années? Mais quelque part, Unai Simón, tu sais que c'est le deuxième meilleur gardien espagnol. En valeur intrinsèque, David Raya est bien au-dessus de Unai Simón.
Je parlais dans le style de ce que veut faire Luis Enrique. Quand je vois Unai Simón.
Mais parce que tu sors pas les joueurs basques, en fait, de l'Athletic Bilbao comme ça. Ils ont des énormes contrats. C'est très difficile à remplacer.
Sans doute. Mais en tout cas, sur ce dossier des gardiens, C'est pour ça que je parlais.
Ça peut être un caillou dans la chaussure de
Louis Enrique. Je pense pas que ce soit un caillou dans la chaussure. Moi, je le vois plutôt dans l'autre sens, et c'est pour ça, par rapport à ta question de départ, peu importe que ce soit signé ou pas, là, que ce soit finalisé, moi, ce qui m'intéresse, c'est qualitativement, je trouve que c'est, les choix sont intéressants, comme tu disais, David. C'est-à-dire que Suzuki, par exemple, même si c'est pas pour tout de suite, là, oui, tu fais une vraie différence. Safonov, j'avoue que j'ai été bluffé par le mec, son mental et sa capacité à élever son niveau de jeu, mais techniquement, je suis pas aussi hypé par exemple que par Suzuki. Avec Liouche, je pense que c'est typiquement le joueur qui a des limites, qui va exploser et qu'il peut exploser avec Luis Enrique.
Supporters parisiens, n'hésitez pas à composer le 32-16. On va continuer de parler du Paris Saint-Germain dans un instant. Mais avant de replonger dans l'after, on va se jeter à l'eau, les amis, et rejoindre Antoine Brard, qui a effectué son plus long déplacement de la saison au Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. Il suit pour nous les championnats d'Europe de natation, les épreuves de plongeon et une médaille, Antoine.
Et ça y est. Après 6 jours d'épreuves, on va la voir, cette médaille française. Jules Bouillet, plongeur de 3 mètres, est sensationnel. Il est pour l'instant en tête, il reste un dernier plongeon. On va savoir si c'est l'or ou l'argent, mais c'est exceptionnel. On l'attend. Je vais me taire parce que je vois qu'on se retourne vers moi. Pas trop d'enthousiasme.
On veut l'or, Antoine.
On veut l'or, ce serait exceptionnel. Mais déjà, une médaille, c'est incroyable. Ça fait 6 jours qu'on attend ça. Ça fait 6 jours. L'Allemand qui plonge, on attend maintenant. On attend les notes. Vous voyez, les Allemands ont l'air très contents. Ça risque d'être compliqué, mais dans tous les cas, c'est exceptionnel. Et Jules Bouillet, incroyable. Il avait été 10e en qualification ce matin. Il s'était dit épuisé. Il n'y a pas eu la moindre médaille pour le plongeon, comme pour toutes les épreuves françaises. On attend, on va savoir.
Il y avait eu une énorme déception sur le double synchronisé.
Exactement, avec Jules Bouillet et Alexis Jandard. Et ce sera l'argent, mais c'est quand même magnifique. Bravo Jules Bouillet, bravo, la première médaille enfin tricolore dans ces championnats d'Europe de natation. On l'attendait. Jules Bouillet était cuit, il le disait, il n'en pouvait plus. Mais il y a eu une belle ambiance ce soir à Saint-Denis. On était à domicile, les Français, et il y a de quoi être fier. Le plongeon tricolore sauve l'honneur et lance enfin les championnats d'Europe de natation pour la France.
Merci beaucoup Antoine, très belle fin de soirée du côté donc du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. Vous écoutez l'after, on est de retour donc sur RMC pour parler du Paris Saint-Germain, et il y a Ahmed qui a composé le 32-16. Il nous appelle des Yvelines de Saint-Germain en Laye. Salut Ahmed, bienvenue.
Salut, Ahmed. Salut les gars, merci de la parole.
Je t'en prie, avec plaisir. Alors toi, c'est le cas Barcola qui t'inquiète un peu.
Oui, parce que le move Diomandé, je le comprenais dans l'idée où peut-être Barcola va partir, et que tu avais un joueur qui prend la profondeur, qui a de la vitesse, qui percute. Mais comme tu fais pas Diomandé pour des raisons X ou Y, ils voulaient pas dépasser 80 barres, je pense pas que l'entourage il l'ait vraiment vu. Mais dans ce cas-là, Barcola, il reste 2 ans de contrat, tu le gardes. Parce que les deux recrues que tu as là, Cliouche et
le. Oui, mais alors le problème de Barcola, moi je suis d'accord avec toi, et j'étais un peu surpris avec le move là, qui s'est passé en début d'été. Mais là, on est aussi sur une question d'entourage et du côté de Barcola et de la, on va dire, une discussion qui m'a paru un peu lunaire sur le projet sportif. C'est-à-dire qu'en gros, Barcola te disant, l'entourage de Barcola, en gros, c'est sûr que tu n'es pas titulaire, enfin tu es plutôt le remplaçant de Doué sur un côté, et donc maintenant c'est le moment où j'avais, ce que je, à la limite je pourrais comprendre d'être titulaire dans un club européen important, donc apparemment il a acheté son dévolu sur Liverpool, mais l'idée du projet sportif, pour moi c'est pareil, c'est un petit peu compliqué. Je comprends que les entourages à un moment donné aient pu convaincre Barcola, et peut-être qu'il a été convaincu lui-même qu'il fallait aller voir ailleurs s'il n'y avait pas plus de garanties, et il n'y en aura aucune au Paris Saint-Germain, des garanties, c'est normal, mais donc le club quelque part avait proposé une revalorisation importante à Barcola. Donc si tu veux, c'est pas tant
il est encore sur son premier contrat en plus,
ouais, Barcola, c'est pas tant le club que le joueur qui finalement là veut voir autre chose. Maintenant, moi, il y a un autre point, je ne trouverais pas gênant, si ce n'est sur la somme évidemment, que Barcola reste encore un an soit vendu l'an prochain.
Surtout que je ne suis pas sûr que tu perdes énormément, vu la rareté du profil de Barcola. Ouais,
exactement.
Tu vas bien, et on ne va pas partir dans la somme demandée par le PSG, mais je ne suis pas certain que tu perdes tant que ça, en fait, sur l'indemnité de transfert. Après, il y a Mika Götze qui arrive, qui a peut-être moins d'explosivité.
Pas signé encore.
Non, mais on peut, une fois que l'agent du joueur, c'est un peu comme à Cliouche, a communiqué sur pas le signé. Fait que le joueur voulait uniquement le PSG, c'est difficile. C'est ce que le PSG attend. Et c'est difficile pour le joueur et pour les volontés de ne pas se rencontrer. Mais moi, sur Barcola, c'est plus sur le profil qui est très difficilement remplaçable. Et je reviens à mon argument qui est de ne pas se lancer dans une spirale inflationniste. Tous les joueurs de couloir, de 1 contre 1, qui sont très verticaux coûtent très très cher. Regardez le prix de Jérémy Doku avant le boom des indemnités. Regardez le prix d'Anthony Gordon. Anthony Gordon, c'est une saison de Ligue des Champions, c'était 80 millions d'euros.
Ouais, mais c'est le marché anglais là.
Non, c'est le marché barcelonais. C'est oui. Barcelone qui l'a acheté.
Oui.
C'est 80 millions d'euros. Donc les joueurs de couloir, Diomandé, une saison réussie en Bundesliga, un championnat qui met sympa. Traditionnellement en valeur les joueurs offensifs, c'est plus de 100 millions. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que c'est une folie, que c'est une bulle spéculative, mais à moins que tu ne l'as pas. À moins tu ne l'as pas. Donc c'est le prix du marché. Et c'est le fait de... Certes, tu peux très bien vendre Barcola, mais par qui un profil qui est très important face à des défenses regroupées, un perceur de coffre-fort, bah, il sera pas évident à remplacer, surtout si tu t'es mis un boulet au pied avec ce communiqué.
J'entends, mais vous vous placez du côté du club. Ahmed, tu peux aussi te placer du côté du joueur. Il est pas titulaire indiscutable avec le Paris Saint-Germain. Bon, alors, il gonfle son palmarès, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais voilà,
je pense que la Ligue 1, il a fait le tour, il est double champion d'Europe.
Mais il tient qu'à lui.
T'as l'opportunité d'être titulaire à Anfield à Liverpool.
Non, parce que je pense que la seule réflexion que je peux entendre, moi après dans la communication, quand on parle de projet sportif, ça tient pas, parce que je pense que le projet justement du Paris Saint-Germain, pour le coup sportivement, c'est un top projet quand t'es joueur de t'inscrire là-dedans. Donc c'est le mot, finalement c'est la communication qui me gêne. Mais en revanche, tu sais aussi à un moment donné que dans l'esprit de ton coach, quoi qu'il arrive, tu ne seras pas la priorité.
Tu penses qu'il y a personne qui peut retourner Luis Enrique? Pardon, excuse-moi, vas-y Ahmed.
Moi je suis pas d'accord, parce que jusqu'à Chelsea, je crois, où il se blesse, ou Liverpool, il est passé devant Doué, hein. Et c'est cette blessure qui le coupe.
Il sent que quand Doué est à son niveau, mais tu Doué, sens que le coach préfère. Il est toujours un peu le second choix. D'ailleurs, paradoxalement, il a été moins le second choix en équipe de France. Il a été presque plus mis titulaire, tu vois, à parts égales, on va dire, qu'au Paris Saint-Germain. Donc, je pense que ce sentiment-là, il a pu se dire, oui, c'est top. Oui, effectivement, je peux jouer. Oui, peut-être, t'as raison. Je peux aussi parfois gagner ma place. Mais plutôt quand l'autre est un peu moins fort que juste parce que vraiment, c'est sûr, comme Gvara, par exemple, c'est clair et net, je le mets sur la feuille de match direct. Il y a toujours un petit doute. Eh ben, ce petit doute, lui, peut se dire, dans ce cas-là, et avec son entourage, si tu mets tout sur le papier, tu dis, là, tu viens de faire une Coupe du Monde inespérée. C'est-à-dire qu'on pensait pas que, machin. Donc, l'entourage, comme tu disais, si tu places du côté du joueur, il dit, c'est peut-être le moment où tu peux aller chercher une place de titulaire.
Après, je te redonne la parole, 15 secondes. C'est le moment où il y a énormément de mastodontes anglais qui cherchent des joueurs de son profil. C'est pas tous les étés que tu auras Liverpool, Arsenal et potentiellement City qui est pas sur le joueur, mais qui cherche un joueur de ce profil. Donc, l'agent, l'un des agents les plus réputés de la place, doit aussi se dire, attends, là, il y a une vraie fenêtre. Vas-y, Ahmed.
C'est l'intérêt de l'agent. Moi, l'intérêt du PSG, c'est j'ai encore 2 ans de contrat, ben, je le garde. Tant que j'ai pas trouvé un profil pour le remplacer.
Je n'en fais
pas, l'année prochaine, tout le monde sera sur lui. Hein. Vous n'en faites pas.
Très bien, merci beaucoup Ahmed d'avoir composé le 32-16 pour parler du Paris Saint-Germain, donc qui débutera officiellement sa saison le 12 août à Salzbourg.
Et qui joue ce soir
à Villa pour la Super Coupe d'Europe. Match amical contre Mallorca 0-0 pour.
Et alors attention, là, si vous voulez voir des jeunes joueurs et des joueurs qui ont peu de temps de jeu dans la saison, c'est ce soir qu'il faut regarder.
Exactement.
Il y a du Njantou, il y a du.
La transition est parfaite. Tu es un homme de radio et de télé.
Il y a du Drô Fernandez.
Derrière, il y aura le trophée des champions face à Lens. Ça se passera à Bollard. Première journée PSG. Rennes. Dans la foulée, Lille, Monaco, Brest et un déplacement au Vélodrome. Les mondialistes ne seront pas prêts. Hein. Je pense à Dembélé, Barcola dont on vient de parler, Doué, à un degré moindre Hernandez ou peut-être Lucas Digne. Toujours pas de recrue officielle. Est-ce qu'il va être important ce début de saison pour le PSG?
Déjà, il est intéressant parce qu'effectivement, tu l'as dit, les mondialistes vont comme dans beaucoup de pays, enfin, ils vont rentrer plus tard et c'est assez lourd. Tu l'as dit sur la Supercoupe, il y a le trophée des champions avec Alonso qui est intéressant. À Rennes en première journée au parc et derrière Lille, Monaco. Donc t'as effectivement moyen de.
Classique dès la 5e journée au Vélodrome.
Absolument. Donc c'est vrai que c'est particulier et ça va être assumé maintenant. C'est pour ça que je jette un œil en même temps sur le match amical. Là on est maintenant sur quand même c'est quoi 4e saison de Luis Enrique.
Ouais.
C'est ça. 4e saison de Luis Enrique. Et tu vois en regardant le juste match amical là. tu vois aussi ce que tu imprimes sur tous les joueurs.
Bien sûr.
C'est-à-dire que là, par exemple, on le disait tout à l'heure, sur un joueur à qui tu dis tiens, tu vas sortir ou on a un blessé, lui, on va te dire en tout cas, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai du monde derrière, même si c'est pas toujours tout à fait vrai. Mais en tout cas, l'effectif est dans cet esprit-là. Et comme de toute façon, maintenant, on l'a vu l'an dernier, même au mois de novembre ou décembre, s'il a besoin, il va te mettre une équipe à prime ou au bis. Bah là t'as un début de saison d'école où tu vas devoir jouer des matchs qui sont toujours importants, marquer un peu le début de saison, prendre des trophées avec une équipe B.
Bah surtout que le format de la saison t'es aussi favorable, parce que avant la clôture du marché des transferts, t'as cette année que deux journées en août. Oui. On sait que le nouveau format de la Ligue des Champions avec 8 rencontres favorise un peu les traînards, les traînes savates au début, qui peuvent se permettre en fait de commencer relativement doucement. On a vu que le Paris Saint-Germain a gagné deux fois avec des champions en jouant le play-in ou le barrage. Donc bon, il y a pas aussi énormément de concurrence cette saison. Autant l'année dernière, Marseille pouvait peut-être pas faire peur pour les concurrencer, mais tu regardais le recrutement de Marseille, tu disais bon, peut-être pas falloir en fait trop de retard à l'allumage, et finalement en fait c'est Lens qui t'a tenu jusqu'au bout, mais ils ont quand même quelques éléments qui peuvent leur faire dire qu'ils ont pas énormément le feu.
Moi c'est plus sur les deux matchs, les deux finales, enfin les deux trophées, que il peut y avoir un intérêt avec une équipe un petit peu moins forte.
C'est important ça quand on est joueur, la Super Coupe.
Moi je pense que en tout cas pour un club comme le PSG maintenant, ces trophées là pour Luis Enrique, ces trophées sont importants. Je dirais juste deux choses. Moins pour la Ligue 1, parce que là, vraiment,
la
marge est telle que là, que tu sois...
Mais pour le tripit, M. Gautreau.
Pour le tripit, c'est important. Et je te dirais même que pour les pourcentages de temps de jeu à gagner pour tous les de la rotation... Moi, ces matchs, à mon avis, sont capitaux. Dans l'esprit de Luis Enrique, j'entends. C'est-à-dire que là, il y a des trucs à gratter. Eh ben, ceux qui veulent espérer rentrer à un moment donné dans la rotation, c'est là qu'il faut les gratter. Parce que c'est des vrais matchs quand même officiels. C'est pas, là,
on... Rennes en prime time, quand tout le monde est excité, retour de Ligue 1, ça va être regardé.
Bien sûr, ça va être regardé. Et comme justement, c'était Lorient, je crois, où il y avait un 0-0.
C'est le premier match de Luis Enrique.
Ah, c'est ça, le premier match de Luis Enrique.
Samedi soir.
Il avait été regardé à juste titre. Tu vois, c'était pas vraiment ce à quoi tu t'attendais, quoi. Donc, je pense que c'est des matchs importants, mais effectivement, pour la rotation, en fait, tu commences à construire ton PSG, t'as le luxe de construire ton truc par le banc de touche au début de la saison. Donc, c'est effectivement un luxe.
Très bien, vous n'avez pas été bon.
J'attends parce que j'aime bien ce que fait Top Müller, là, donc ça va être intéressant.
J'aime tout ce que fait Lens depuis un an et demi, moi.
Ils sont bons.
Ouais. Et vous n'avez pas été bon, vous avez été très bon sur cette partie parisienne, sur le Paris Saint-Germain. Une petite respiration, l'after revient dans un instant sur RMC. On va descendre un petit peu plus au sud, sur les rives de la Garonne. On va parler du TEF dans un instant, ne bougez pas.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Christophe Plenet.
Avec Flo Gautreau, avec David Guzman, l'after est de retour. On va s'intéresser à présent au TFC, le TEF, 9e l'an dernier, avec 45 points. Est-ce que les Violets sont en capacité de faire mieux? David Guzman peut être hypé par les Toulousains. C'est son avis tranché. Jingle.
Moi, je fais du financement immobilier. Quand je finance des fonds, quand un fonds achète une tour à la Défense, il y a un bail commercial en 3-6-9.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé.
Exactement, c'est cadeau David. On va se mettre un petit peu en retrait avec Flo et on va t'écouter.
Eh ben, écoute, moi, je fais sur le financement immobilier, mais je suis un hipster complètement assumé.
Et un boomer toujours.
Ouais, aussi. Et un boomer aussi, complètement assumé du foot. Et je dois avouer que l'interview d'Olivier Cloiret que nous avons fait avec Walid et Jérôme la semaine dernière, moi, m'a un peu mis la puce à l'oreille. J'avais déjà eu... été un peu émoustillé par l'arrivée de Dascou sur le banc du TFC, mais j'ai envie de cette saison de cocher la case TFC chaque journée de Ligue 1. J'ai vraiment envie de voir ce que ce club peut donner, parce que depuis trop de saisons, j'aime les individualités, j'aime quelques rencontres, mais il me manque ce côté émotionnel, ce côté esthétique. Et pourtant, Toulouse a tous les atouts pour mettre quelque chose de plaisant et d'enthousiasmant en place. On commence tout en haut. Un actionnaire, Redbird, qui est peut-être un peu trop discret et pas assez dispendieux pour certains, mais quand même qui a quand même investi dans un centre de performance qui peut être la base du TFC de demain. On redescend d'un cran. Moi, j'aime beaucoup le duo managérial Cloaret qui incarne un peu l'image de tradition française, qui connaît très bien les instances, qui a été performant à Dijon, performant à Rennes, qui est performant à Toulouse, qui a été hyper pertinent avec nous en interview, très précis, et son directeur sportif Bézani, qui est passé par la Mecque du trading, Brentford, Watford, Leicester, qui est en troisième division, mais on a oublié qu'il faisait des super coups pendant très longtemps, dont cette alliance tradition-modernité a tous les atouts pour mettre quelque chose d'enthousiasme en place. Je l'ai dit en introduction, à ce coup, clairement une nomination qui me parle. Un entraîneur étranger, francophone, vertical, progressiste, quelqu'un qui est arrivé à Motherwell, qui les a propulsé à la quatrième place, qui est allé chercher le Sporting, qui est allé presser le Celtic, pardon, pas le Sporting, dans son propre camp, qui a eu des résultats. Moi, c'est un choix audacieux, c'est un choix qui me plaît. Et ensuite, le pool de joueurs, même si Toulouse s'est départi de deux joueurs importants avec Emerson Cresswell. On sait que Metallic Beau pourrait partir. Ils ont de la matière première, que ça vienne du centre de formation comme Vossa, que ça soit déjà arrivé l'année dernière comme Hidalgo. Moi, je pense que Santi Hidalgo, c'est un joueur qui a un plafond très très haut. Il y a Caceres, il y a Donum, Beau n'est pas parti. Donc en fait, à tous les étages de la fusée toulousaine, il y a les ingrédients pour séduire. Ils ont le plancher qui est offert par l'actionnaire et aussi par le manque de moyens des autres qui fait que, quoi qu'il arrive, je pense pas qu'ils soient vraiment menacés par la descente. Donc j'ai envie de leur dire, lâchez-vous, vous avez l'argent, vous avez les compétences, vous avez le squelette d'effectifs, vous avez le temps, vous avez un public qui est connaisseur mais pas trop exigeant, mais enfin, depuis votre montée, il y a eu des bons moments, il y a eu la finale de la Coupe de France, mais avec les compétences que vous avez, envoyez-nous un peu. Faites-nous rêver. Esthétiquement, montrez-nous quelque chose. Moi, cette année, Toulouse, j'attends qu'il se singularise. Et vraiment, j'ai envie qu'il me montre quelque chose que je vois pas ailleurs.
Flo, ton avis, moi perso, j'ai fermé les yeux, j'étais sur la place du Capitole, sur les rives de la Garonne.
Non, mais moi j'aime bien l'analyse et je connais bien Olivier Cloarec parce que j'ai beaucoup suivi quand il était à Rennes notamment. Et effectivement, le cocktail est très bon. Mais je serais moins hypé parce que t'es quand même obligé, et quand on parle avec Olivier Cloarec, il te l'explique très bien, t'es d'abord obligé de vendre avant de pouvoir espérer faire quelque chose. Et malgré tout, tu peux marquer ton ambition de deux façons. Un, sur le banc de touche. Enfin, je parle sur l'entraîneur, pas sur l'entraîneur, ça c'est le cas. Et j'aime là aussi le discours qu'il a montré, c'est-à-dire, ou plutôt qu'il a donné, le coach, c'est-à-dire que les gens seront peut-être intrigués, les gens vont être surpris, parce qu'on va faire quelque chose. Et moi je pense aujourd'hui que ce que doit faire un club comme Toulouse, c'est pas tant, j'ai entendu même Olivier Cloarec parler d'un cap à passer, toi tu évoques peut-être quelque chose qui
plus esthétiquement.
Ouais, tu passeras peut-être, mais passer à une sorte de à la surmultiplier pour mettre plus. Moi je pense qu'il y a trop d'éléments aléatoires sur les recrues que tu peux faire, comme le petit, je crois qu'il y a un jeune Opong, un jeune de 18 ans là, un Suédois
qui arrive.
Ok, je vais pas te dire aujourd'hui, après tout ce que j'ai lu là sur lui, apparemment c'est super. Je sais pas, on va voir ce que ça donne, comme pour plein de joueurs, tu vas avoir 60% de réussite, 40% d'échecs, et tu peux faire une très bonne saison quand même. Ce que je veux dire, c'est que t'es obligé de faire ce type de politique pour valoriser des joueurs que tu vas revendre l'année d'après, et sur certaines saisons, tu espères qu'avec ce que tu as à vendre, comme Cresswell, tu vas réussir à faire des bons coups et peut-être surprendre. Pourquoi pas ? Le coach peut être bon, et l'effectif aussi. Mais je trouve qu'à chaque fois, il y a un puzzle qui est hyper compliqué à mettre en place. C'est pour ça que je veux bien aller sur ton idée, sur ton enthousiasme, mais je trouve très compliqué de changer de coach, même si moi, je pense qu'il fallait changer de coach, effectivement.
Et que, il a fait son temps, il a gardé 3 ans.
Il avait fait son job, mais j'avais envie de voir autre chose dans le management, apparemment c'est le cas. Dans l'effectif, moi, ce que je reconnais à Olivier Cloarec, c'est sa capacité à bien vendre. Le mec est un super vendeur. Pour répondre des stats à Rennes, c'est très bon.
Café Doku, Café Dembélé, Café Aguerd.
Moi, je te prendrais même des joueurs qui sont moins forts. Bah, et dont on m'a dit quand ils arrivent, ouais, mais t'as vu Rennes, combien ils les achètent? je t'ai entendu sur le pôle aussi, on m'a dit la même chose. Que t'avais combien il achète? Ouais, qu'il y a moins d'eau. T'avais combien il achète? Bah, regarde combien ils l'ont vendu. Il y a toujours 5 millions de plus, même pour un joueur qui a été acheté très cher, ou voire après, des fois, bah, bien plus. Donc, ça, c'est hyper bien parce que je trouve qu'il colle au projet. Donc, là, pour le coup, ça colle parce qu'il faut vendre sur Cresswell. J'ai suivi tout l'été Rennes-Toulouse. Je veux dire,
non, mais surtout sur Cresswell,
il a pas lâché, et donc Cresswell,
Flo,
à la
on
fin,
en parlait hier, ce qui est malin, c'est que tu te sécurises déjà l'année prochaine avec cette option d'achat obligatoire. Donc l'année prochaine, exactement. Je vais pas te dire que t'es dans tes chaussons.
Mais pour revenir à ce que tu dis, là où je suis plus optimiste, c'est que Olivier Cloirec est arrivé, on va dire tardivement l'an dernier, on avait échangé là-dessus. Nous, on est allé à Toulouse avec l'After dans la saison, on en a reparlé. Dans une situation où tu vas, comme tous les ans, vendre. Donc, tu as 4-5 ventes obligatoires pour pouvoir, avant de commencer à pouvoir travailler. Et donc, quelque part, la mise en place d'un projet avec lui, pour lui, sa découverte du club, de la ville, etc., elle était presque trop rapide. Là, c'est pas la même chose. Et là, il y a un plan qui est un peu différent. Tu as eu plus de temps. Tu sais comment tu fonctionnes, effectivement. Tu vends bien, à nouveau. Et là, derrière, normalement, tu dois faire quelque chose de mieux. Mais moi, j'insiste, effectivement, comme tu le dis, sur que ces clubs-là, moi, je leur fixerai pas d'objectif, tu sais, en termes de place. Ou à peu près. Moi, je dirais juste, faites comme tu le dis, qu'il se passe quelque chose et qu'on ait envie de dire, comme on l'a dit pour plein de clubs parfois, bah tiens, moi, ce week-end, effectivement, j'ai envie de regarder ma match de Toulouse parce que là, il se passe un truc. Et c'était plus le cas d'ailleurs avec
Martinez
Dobel. Mais
en fait, il y a peu de clubs en France qui ont, tu sais, cette espèce de... Ce serait péjoratif de les appeler le ventre mou. Mais de se dire, ils ont de la marge sur ceux qui sont désargentés et ils ont aussi énormément de retard par rapport aux clubs qui bénéficient d'un mécène. Mais moi, c'est vraiment sur le plan esthétique, sur le plan de la réflexion que...
Mais dans ce cas-là, effectivement, tu vois, la fin du projet, les derniers mois avec Martinez Noël, ça ne collait plus à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a eu trop de...
Combien de matchs l'année dernière ou de Toulouse? Le match dont je me souviens, c'est pour un triplé de John Neves, tu vois, de Toulouse. Mmh. Alors, ok, ils se sont éclatés contre Metz, il y a eu un très bon match au Paris FC, mais j'ai pas une image vraiment emballante. J'ai pas cinq images emballantes de
Toulouse. Ils font un super match contre Lyon, quand même.
Oui, ok, d'accord. Mais j'ai pas cinq images.
Avant la dernière journée.
J'ai un peu exagéré. J'ai pas cinq images ultra emballantes de Toulouse l'année dernière. Et avec les compétences et les capacités qu'il y a, je trouve ça personnellement anormal. Je vais faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être parce que moyen complètement différent. Mais moi, j'aimerais bien que Toulouse devienne quelque part le Brighton ou le Brentford français, où tu te dis, eh ben, tu sais quoi, ce week-end, il y a Toulouse qui joue, ils ont toujours des joueurs sympas à voir jouer, ils ont toujours un entraîneur entraînant, ils ont toujours quelque chose à nous dire du foot, parce que je pense que la Ligue 1 manque de ces espèces d'équipes où esthétiquement, ou même intellectuellement, elles vont nous chercher, elles nous montrent des choses qu'on voit pas ailleurs.
On accueille Patrick, qui a composé le 32-16, supporter du TF. Bonsoir, Patrick. Est-ce que tu es hypé par la vie de David ou hypé par la saison qui s'annonce des Toulousains?
Bonsoir. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec David. Je suis hypé. Déjà, on a un grand espoir parce qu'on a un changement d'entraîneur, donc je pense que ça va faire du bien. Un changement de système de jeu où on espère avoir beaucoup plus de matchs sympathiques au stadium que ces deux dernières années où on a quand même vécu énormément de matchs ternes et énormément de défaites. Et puis après, un effectif avec beaucoup de jeunes extrêmement prometteurs. Bon, la seule question aujourd'hui, c'est qui va partir et qui va arriver. Parce qu'effectivement, il y a déjà deux départs. Cresswell, c'est quand même une grosse perte. Et puis on sait, bah, vous l'avez dit, qu'il y a d'autres joueurs qui risquent de partir.
Bah, mais Metallic Beau, je pense que c'est dans les tuyaux.
Oui, voilà, Metallic, c'est dans les tuyaux, Beau, peut-être aussi, enfin bon, après, vous êtes mieux informé que moi.
Beau, c'est le meilleur atout offensif de l'an dernier.
Oui.
Voilà.
Donc, c'est pour ça que je dis juste, après, je te donne la parole, tu vends bien, tu perds, t'es pas sûr de retrouver.
Très difficilement remplacer avec Beau.
Ouais.
Oui. Alors après, ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que chaque année, tu perds des bons joueurs, et puis finalement, tu recrutes des joueurs qui deviennent, enfin, qui est presque aussi bon que les autres. Hein. Tu vois, à un moment, t'as perdu Dalinga. Bon, ok, on a beaucoup pleuré. Et puis après, t'as recruté d'autres joueurs qui devant, comme Beau, etc., ont été très bons, marqué des buts. Regarde, Emerson, c'est quand même le coup du siècle. Hein. Tu l'achètes 3 millions, tu le revends 30 ou 28.
Coup, c'est peut-être pas. J'aurais peut-être utilisé des termes un peu plus bancaires, hein, braquage, par exemple, que
hold coup. Up.
Ouais, hold up.
Mais voilà. Bon, enfin. Bon, et ça, justement, ça veut dire que ça, c'est quelque chose d'inespéré dans le mercato. C'est-à-dire que c'est une vente qui n'était pas du tout anticipée. Donc, ça veut dire que cette année, on risque d'avoir un très gros mercato. Puisque si t'as encore 2-3 joueurs qui partent, Metalli à 30 millions, etc., ça fait un mercato énorme. Et là, je pense que la clé, c'est à ce moment-là de casser un peu la tirelire, entre guillemets, et d'investir sur des joueurs de niveau un peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude d'investir.
Bah, tu sais donc que c'est ce qu'Olivier Cloarec nous confiait à l'antenne. Nous, on lui avait posé la question, est-ce que vous allez justement aller chercher un peu plus, monter en gamme, niveau prix de transfert et niveau pari? Et lui, il s'est dit il nous a confié qu'il s'autorisait à deux ou trois coups d'aller justement sur des joueurs un peu plus confirmés, sur des gammes de prix un peu au-dessus.
Oui, mais tu vois, par exemple, je suis d'accord, mais par exemple, le finlandais là, ou le danois, la Siltanen, là, le milieu de terrain là, qui était dans les tuyaux, ben a priori c'est mort parce que quelque part on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un prix et que le prix il était aux alentours d'entre 6 et 8 millions. Donc ça c'est des prix qu'on n'a pas l'habitude de mettre au TFC pour acheter des joueurs, mais peut-être que cette année c'est effectivement le moment pour se dire on a beaucoup de ventes, on peut peut-être acheter un ou deux joueurs qu'on va payer un peu plus cher que ceux qu'on achète d'habitude, mais qui vont effectivement nous permettre d'avoir vraiment des valeurs ajoutées dans l'équipe, parce qu'après il y a un potentiel énorme. Hein, l'année dernière, franchement, on aurait dû finir européen. Enfin, c'est clair qu'à un moment en début d'année, enfin vers le mois de janvier, là, on était quasiment à un point de la 7e place. On avait 5 matchs faciles, enfin, entre guillemets, contre des équipes qui étaient classées derrière nous. Et puis, sur ces 5 matchs, ça a été une catastrophe. Mais sinon, on était quand même pas très loin de l'Europe. Donc, ça veut dire qu'avec un nouvel entraîneur, un nouveau système de jeu, abandonner cette défense à 5, surtout au stadium, quand tu reçois des petites équipes, jouer une défense à 5, c'était catastrophique. Aller vers l'avant, avoir une nouvelle dynamique, je pense qu'on peut viser la 6e ou la 7e place. Hein. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être à un moment avoir un ou deux joueurs de niveau plus élevé qui nous rejoignent. Voilà. Mais bon, après, il y a peut-être d'autres questions qui se posent derrière.
Non, après, il y a un point, tous les clubs sont un peu dans la même situation, mais quand tu as de la qualité, c'est le centre de formation, les fameux pitchouns, parce que c'est vrai que aujourd'hui, tu as le trading, tu as la cellule, les scouts, et puis tu as le scouting, et puis tu as quand même les pitchouns et le centre de formation. Et là, il y a de la qualité aussi. Donc,
mais ils investissent dans un centre de performance, ouais, donc ça veut
donc
dire
en fait, si tu veux, je pense que, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un projet qui veut grandir. C'est pas juste, comme tu le dis, c'est vrai hein, ce que tu dis, sur l'équipe première, tu dois à chaque fois recommencer un truc, pas à zéro, mais recommencer et retrouver des joueurs, si possible, aussi bons, voire meilleurs qu'avant. Mais c'est, si possible, ajouter des pierres supplémentaires, améliorer le centre de formation et surtout faire jouer des jeunes de ce centre de formation dans l'équipe première, enfin les faire monter et à l'entraînement d'abord et en équipe première. Et c'est plutôt ça qui ferait évidemment de Toulouse un club vertueux, qui plus est dans une région et une ville pas simple pour ça, parce que t'as quand même le rugby à côté. Et ça, déjà, ils ont gagné des parts de marché là-dessus.
Bah déjà, malheureusement, parce que moi je parle en tant que supporter bordelais aussi, d'un point de vue géographique, il règne un peu sur le quart sud-ouest de la France. Et justement, sur ce centre de formation, je trouve que Toulouse a aussi peut se permettre quelques excentricités financières parce qu'ils ont beaucoup de visibilité. C'est-à-dire que cette saison, même si tu vends déjà Metalli, la saison prochaine, tu sais que t'as Guillaume Rest, tu sais que t'as Alexis Vossin, tu sais que t'as Hidalgo, tu sais que t'as Caceres, tu sais que t'as quand même des munitions, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que t'as déjà une saison, deux saisons, où financièrement, tu te dis, écoute, à moins vraiment d'un cataclysme de blessures en cascade, on a une réserve financière de joueurs qui vont nous permettre, en accord avec l'actionnaire, sur certains coups, de pousser un peu plus loin.
Oui, non, mais ça, c'est certain. Bon, après, il y a effectivement, au niveau des jeunes, il y a un énorme potentiel. Bon, après, ce qui est très bien, là, c'est que notre nouvel entraîneur, il a, sur les matchs de préparation, il a intégré énormément de jeunes.
Petite parenthèse d'ailleurs à Patrick, pardon. Toulouse a battu Alain 1-0 aujourd'hui en match de prépa. C'est la deuxième victoire en préparation après la victoire 2 hein, contre la Sociedad. Et Toulouse avait démarré sa prépa contre le voisin ruthénois, partout contre Rodez.
Je crois que ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas gagné un match de préparation avant la Real Sociedad. Je crois que c'est ça, 2024, je crois. Ouais.
Et ils démarreront le championnat à domicile face à l'Olympique Lyonnais. Vas-y, Patrick.
Voilà. Non, bon, après les matchs de préparation, faut toujours faire très attention parce que c'est des matchs où tu fais énormément tourner. Donc,
vous n'aviez pas pris 6-0, 7-0 contre Leipzig et Stuttgart l'année dernière,
ouais, l'année dernière c'était un cauchemar.
C'était ça, ouais.
Ça avait été un cauchemar, mais après, c'était des matchs où tu avais 3 mi-temps de 30 minutes, où tu faisais complètement tourner tes équipes, et puis le début de saison, il a été plutôt bon. Donc, je pense que c'est fait aussi pour un peu jauger l'effectif et voir effectivement.
Non, mais c'est vrai, mais je reconnais que ça m'avait fait un petit peu peur pour eux parce que rien qu'en termes de confiance, on en a parlé pour le match de l'OL hier, quand tu prends 6 buts à chaque match, t'as beau te dire qu'il y a des raisons, t'arrives quand même un peu pas très serein si tu joues Monaco, Paris ou Lyon en début de championnat, par exemple.
Ah, mais dans l'absolu, c'est sûr qu'il vaut mieux gagner tes matchs de prépa que les perdre. Et bon, c'est pas parce que tu vas tous les gagner que.
Bah surtout quand t'es un nouvel entraîneur, parce que on commence à voir là sur les réseaux avec les danses que prennent les Strasbourgeois en match de préparation. C'est vrai que pour un nouvel entraîneur, c'est toujours difficile d'arriver et d'avoir une carte de visite un peu abîmée par des résultats.
Mais d'ailleurs, ce qui est pas mal, enfin là pour l'instant, c'est que il intègre des jeunes. Deux, il en a parlé dans sa conférence de presse. Il a vraiment évoqué tous ces sujets-là sur le type de jeu, sur le plaisir à prendre, enfin que les spectateurs devraient prendre, sur l'intégration des jeunes. Et pour l'instant, ils prennent peu de buts. Enfin, c'est plutôt une équipe. Alors on va voir, mais en tout cas,
il a lancé 27 jeunes depuis qu'il est entraîneur de
justement les copains. Vous parliez du centre, il y a un message sur le WhatsApp de l'After pour le centre. Toulouse bénéficie également du fait de récupérer des jeunes de Bordeaux. Plusieurs ont déjà fait le trajet. Bordeaux, je le rappelle, qui passait devant le CNOSF aujourd'hui à 14h. On aura la réponse sous 48h, soit la R1, soit la 6e, soit la R1, soit la
Line 1.
C'est ça. Donc Toulouse récupère des Bordelais, David ?
Absolument, oui. Absolument, parce que Bordeaux continuait à former malgré la fermeture de son centre de formation. Et d'ailleurs, le dernier fleuron, entre guillemets, Jean Griot, vient de signer au Clermont Foot. Donc voilà, c'est aussi un déchirement.
Très bien. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir composé le 32-16.
Tu reviens
quand tu veux.
Merci.
Et comme ça, les supporters toulousains pourront pas dire qu'on ne parle jamais de Toulouse.
Exactement. Voilà.
C'est vrai. C'est très bien.
C'est un des sujets.
Je l'ai pas fait pour ça. Mais bien, merci Flo.
On parle de tous les clubs dans l'after. On parlait du Paris Saint-Germain il y a un instant. 2-0 désormais pour Mallorca en match de préparation sous les yeux de Luis Enrique, un petit peu soucieux, soucieux. On parlait de Lyon également en début d'émission. Lyon qui se déplacera donc à Toulouse lors de la première journée. Lyon qui jouera son troisième tour préliminaire, retour de Ligue des Champions la semaine prochaine à Décines, dans la perspective d'un barrage pour intégrer le tableau final de la Ligue des Champions. Ce barrage, ce sera face à Sturm Graz ou Fenerbahçe. 2-0 pour les Turcs, avec un deuxième but signé Mason
Greenwood.
Premier. Bingo Colombo, une petite respiration.
Et
on revient pour la dernière partie de l'after. On va parler Mercato sur RMC. Ne bougez pas tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Christophe Plenet.
Avec Florent Gautreau, avec David Glusman, la dernière ligne droite de l'after. On termine comme tous les soirs par les dernières infos mercato. On parle pépette dans l'after.
C'est combien ?
30 000.
Elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te la marcher.
Tu l'as fait à combien là ?
J'ai dit 30 000.
Ça vaut 15 000 francs ça ?
Non, 30 000.
25 000 ?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Je suis retombé sur l'extrait in extenso.
Fabuleux.
Et alors, ce qu'il faut regarder, c'est le.
Il termine avec les piments.
Ouais, mais c'est regarder la tête de Junio, qui joue ça super bien quand la stratégie de Nego
ne fonctionne pas.
Il commence à sourire sous cap.
Je suis d'accord.
En disant, ouais, mec, t'es ridicule.
Petite parenthèse fermée. Merci, Flo. À mon avis, ça va être plus de 30 000. C'est l'effervescence, l'ébullition en Turquie à Trébizonde avec Mohamed Salah, qui va signer donc à Trabzonspor, signature prévue demain au Paparapak Park avec du public, les médias, le numéro 10. On aurait pu penser que l'ancienne star de Liverpool rejoigne une destination un peu plus exotique, l'Arabie Saoudite, le golf. Il reste en Europe, en Turquie. Bonne chose, mauvaise chose, les garçons.
Alors t'as vu le package ? Le package, ouais, est absolument fabuleux. Délirant. Je crois. Non, mais c'est un package. Bah oui, c'est un package parce que donc il y a son salaire qui, je crois, 5 fois le deuxième salaire du. On serait quasiment à 20 millions nets plus une part sur les maillots vendus. Et donc il y a certains
17 millions d'euros assortis d'un bonus de 5 millions ainsi que 20% des bénéfices.
Voilà, exactement.
Des
bénéfices sur les maillots. Et il y a plusieurs analystes donc turcs qui se sont étonnés d'un tel montant, et on leur a plus ou moins fait comprendre que il y aurait une intervention étatique ou semi-étatique pour s'assurer en fait du financement de l'opération. Parce que je crois que Trabzon est le club du gendre d'Erdogan, et que il y aurait un financement mis en place qui serait complètement légal, hein, mais il y aurait un financement mis en place pour s'assurer du succès financier de l'opération de Mohamed Salah. Donc c'est surprenant, mais le championnat turc nous surprend de toute façon toutes les semaines là en période de mercato. Tous les jours,
il y a du monde dans le championnat turc avec Osimhen à Galatasaray par exemple. Flo, ben, Salah qui reste en Europe et en Turquie.
Moi, je trouve ça bien. Je trouve qu'effectivement le championnat turc il est dingue. Depuis quelques années, et il faut se souvenir que Salah, qui évidemment a commencé à tirer la langue, on va dire, en première ligue, il n'a que entre guillemets 34 ans. Salah, c'est pas un joueur de 38, 39, 37 ans. Hein. Il a 34 ans, donc Salah en Turquie. Enfin, je trouve ça bien qu'il reste effectivement dans un championnat compétitif. Après, bon, effectivement, le délire du transfert, le délire tout court sur son accueil, tout ça, bon, ça fait partie du truc. Mais non, je trouve ça plutôt bien. Et je pense qu'il y a, pour le coup, il y a une seconde vie pour ce genre d'attaquant. Il est cramé pour la première ligue et la Ligue des Champions peut-être, mais pas cramé tout court.
Moi, ce que j'aime, c'est qu'il va vraiment, enfin sans exagérer, il va transformer la vie de milliers de personnes, parce que j'avais regardé des vidéos de l'arrivée attendue de Salah à Trébizonde, mais c'est incroyable vraiment, et le fait qu'il puisse transporter et transformer la vie de gens, je trouve ça assez incroyable, et je me réjouis de la destination.
Exactement, je suis d'accord.
C'est vrai qu'il y a une partie des transferts pillés par des entreprises privées, t'as des
Financements bancaires aussi
c'est
un délire.
On parlait de Diomandé, c'est pas signé, mais c'est tout comme L'Oréal a trouvé un accord avec Leipzig pour le joueur ivoirien. Bon choix, mauvais choix. Alors que Vinicius, je précise, pourrait finalement rester.
C'est ça que j'allais dire. Moi, je veux juste te dire, le coach, Mourinho.
Bon
courage. Ouais, enfin, il y a
abondance de biens ne nuit jamais, monsieur Gautreau.
Non, c'est sûr, mais t'as un vrai travail de vestiaire. Là, je pense qu'abondance de biens peut nuire. Enfin, pour le coup. Mais bon.
Oui, non, je suis complètement d'accord. C'est un joueur dont la cote s'est complètement envolée. C'est un joueur qui a peu de références au très 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 haut niveau, mais c'est un profil ultra recherché. Je crois que pour tous les aficionados des chiffres et de la data, c'est un profil data qui ressort en premier lieu. Donc voilà, je suis assez sceptique moi sur la destination. Je pense que si j'avais fait partie du clan Diomandé, qui est visiblement assez multiple et important, puisqu'il y a différents agents qui se battent pour s'assurer une part du gâteau, j'aurais peut-être choisi Liverpool ou le Paris Saint-Germain, mais bon, après c'est un choix.
On écoutait Christian Clavier dans le jingle, hein, avec ses 30 000 pour deux tam-tam. Là, on est quand même sur un transfert de 125 millions d'euros plus 15 millions.
C'est théorique, hein, parce que
de bonus, on est à 140 millions si Vinicius ne part pas. Va falloir mettre de.
Il y a Rodrigo qui revient. Il y a Mathieu Antonot qui va certainement être prêté, mais il y a Rodrigo qui revient. Il y a Arda Güler, il y a Brahim Diaz, il y a beaucoup. Enfin, il y a des gens à contenter. Mais encore une fois, moi, à la place du clan Diomandé, je pense que la raison aurait voulu PSG ou Liverpool.
Dizazi, qui se dirige vers Crystal Palace. Contrat, pas contrat, les garçons?
On en a parlé il y a deux jours. Dizazi, je pense que c'est bien pour lui. Défense à 3, Pierre Sage, Londres. Donc transfert sud-ouest londonien, pourquoi pas. C'est un transfert qui a du sens pour toutes les parties.
Oui, non, moi je suis assez d'accord. Je pense que tout dépend pour lui, c'est le coach va être important aussi, parce que il a besoin de. Après, je trouve pas que ce soit qu'il ait fait sa meilleure saison non plus. Donc il a besoin d'un coach effectivement qui puisse le remettre, le mettre bien. Effectivement, le système peut lui convenir. C'est pas un mauvais transfert.
Barcola, on en parlait dans la page PSG, de plus en plus proche. Non, pardon. Un transfert qui pourrait durer finalement.
Non, moi, Barcola, Liverpool. Enfin, tu vois, Barcola pour Liverpool, j'ai du mal à comprendre.
Ça pourrait se décanter dans les dernières heures du mercato, ça.
Moi, j'ai du mal à comprendre pour Liverpool. Je sais pas ce que t'en penses, Flo, mais Liverpool, il y a une abondance de biens sur ce profil faux pied côté gauche, là où Barcola est le plus à l'aise, et là où Rayon Gomoa, le plus gros talent prospect de Liverpool, Poule aime jouer, donc ça déporterait Ngoumoura de l'autre côté. Je suis assez surpris, moi, que Liverpool batte son record de transfert, parce que ce sera potentiellement le cas, peut-être battre le record de transfert de Dizac sur un joueur dont qui joue sur un côté où ils sont déjà assez chargés.
Disons que moi, je peux comprendre que Barcola ait envie de jouer à Liverpool parce que lui peut s'imposer à Liverpool.
Ça, je le comprends complètement.
Et que j'irais entre le rêve de gosse, le nom du club, le fait qu'il puisse être titulaire, le coach. Il y a, pour moi, ça coche pas mal de cases. Après, sur la politique de recrutement de Liverpool, on l'a bien vu l'an dernier. C'était totalement irrationnel. Donc effectivement, ça c'est plus problématique. Après, effectivement, comme on le disait aujourd'hui, oui, ça risque de durer parce que le Paris Saint-Germain, de toute façon, pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas signé de potentiel successeur, n'est pas pressé. Ils peuvent effectivement mettre la barre très haut. Donc oui, c'est un truc qui va durer tout l'été, à mon avis, enfin jusqu'au bout.
On nous écoute sur le WhatsApp de l'émission et il y a un message de Sol Anthony qui aimerait voir Ludovic Ayork à l'Olympique de Marseille.
Oula.
Ça vous paraît,
ça,
ou pas?
Non, ça me paraît pas idiot. Très honnêtement, ça me paraît pas du tout idiot.
Non, mais c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là aujourd'hui, je sais pas si c'est dans les tuyaux du tout. Hein.
Non, mais il a un nom de contrat à Brest. C'est un profil performant en Ligue 1, régulier en Ligue 1. C'est un profil un peu associatif, comme les aime Genesio, un peu le Giroud qu'il a pu avoir l'année dernière. Amine Gouiré en pointe.
Un profil qui rentre dans le nouveau salary cap de Marseille.
Oui, quand il rentre dans le nouveau salary cap de Marseille. Et derrière Amine Gouiré, moi, je suis pas convaincu par les options Mumbagna ou Neil Mopé. Donc, je trouve que ce serait pas, alors, c'est moins vendeur que les dernières fenêtres de transfert, mais ce serait pas du tout idiot.
Allez, puisqu'on parle de Marseille, une dernière petite info. C'est pas vraiment un transfert, mais c'était un mouvement, hein, une information de Flo Germain, notre correspondant à Marseille. Adidas sera l'équipementier de l'OM à la fin du contrat avec Puma. Ce sera donc à l'issue de la prochaine saison, en juin 2028. Marseille revient à ses premiers amours.
Flo, est-ce que ça sentirait pas le banger, ça, le maillot banger? Moi, je pense que ça sent le maillot banger.
En tout cas, moi,
ça, c'est une info qui va t'empêcher de dormir.
Flo. Non, mais je suis assez fan de la marque aux trois bandes.
Ouais.
Voilà. Donc,
je vois une espèce de revival 93.
Ouais, ouais. J'attends beaucoup du travail d'Adidas sur le maillot de l'OM, effectivement. Les supporters n'étaient pas convaincus par le changement de logo. Mais en revanche, ils peuvent être convaincus par le changement d'équipementier, même si Puma fait des très bons maillots, hein,
je suis plus convaincu par la marque aux trois bandes aussi. Et surtout que, économiquement, alors, les rumeurs qui n'ont pas été confirmés mais qui ont fuité, ce serait un doublement du contrat, ce qui placerait tout de même l'OM dans des sphères européennes tout à fait convenables, je pense top 10, top 15 européens, si l'information se confirme. Donc ça prouve encore une fois que l'OM est une super puissance commerciale, que le maillot de l'OM, même au niveau sponsoring, c'est top 15, top 20 européens. Donc c'est aussi dans ces périodes de vache maigre de mercato marseillais, une réelle raison de se réjouir.
Très bien, merci beaucoup David et Flo de m'avoir accompagné. On va se retrouver demain, même endroit, même heure, 20h sur RMC pour un nouvel opus de l'After. On parlait de Marseille, je rappelle que Fenerbahçe mène 2-0 face au Sturm Graz avec un but notamment de Mason Greenwood, et que le Paris Saint-Germain en amical, eh bien, pour l'instant, est mené 2-0 face à Majorque. Voilà, très belle soirée sur RMC et rendez-vous donc demain pour un nouveau numéro de l'After, votre émission préférée. Ciao.
RMC, l'After Foot.